Si je vous dis EMC, ça vous dit quelque chose ?
Non, ce n'est pas une nouvelle molécule, ni une firme internationale. Il s'agit de l'enseignement moral et civique au collège. Pour en savoir plus, on vous propose d'assister à un cours dans le cadre du programme « Agir pour l'égalité homme-femme » et la lutte contre les discriminations.
Voilà, comme je vous disais, c'est même avant les lois, les principes, hein, c'est la façon dont toute la conduite et donc toutes les lois vont être élaborées. Donc aujourd'hui en France, on ne peut pas faire une loi qui créerait une inégalité entre les femmes et les hommes, en tout cas qui créerait volontairement une inégalité, parce que ça irait contre le principe. Et donc en France, on a une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel, et quand une loi est proposée, il vérifie si cette loi ne dit pas le contraire de ce qui est dans la Constitution. Donc par exemple, si la loi ne va pas contre les principes. Donc je vous montre, vous voyez ici, donc ça c'est le début du texte, alors de la Constitution de 1946, mais ça c'est toujours en vigueur aujourd'hui. Et qui peut nous lire le passage qui a transformé l'égalité femme-homme en principe ?
La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux et ceux de l'homme.
Donc ça a été écrit en 1946, c'est aujourd'hui, eh bien c'est toujours en vigueur, donc on ne peut pas faire une loi qui ne permettrait pas, en tout cas aux femmes et aux hommes, d'être égaux dans tous les domaines. Et donc justement, pour finir cette partie de la leçon, on va résumer, et donc avec les frises que vous aviez complétées, on va voir un peu dans quel domaine on a des lois aujourd'hui qui placent les femmes et les hommes à égalité. Donc, les domaines que l'on va identifier, on va pouvoir choisir une couleur pour chacun, et sur la frise, ensuite, eh bien, on va colorier les dates que l'on a trouvées pour voir ici quelles sont les lois qui ont créé de l'égalité politique pour les femmes et les hommes, une égalité civile, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, l'égalité professionnelle et enfin l'égalité au niveau de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Là, vous allez pouvoir marquer ça, et donc vous choisissez une couleur pour chacun. Moi, par exemple, je vais choisir 4 couleurs, et on va reprendre notre frise et noter qu'est-ce qui relève de l'égalité politique, civile, professionnelle et de la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles. Donc, en rouge, l'égalité politique, en bleu, l'égalité civile, en vert, dans le domaine professionnel, et les violences sexistes ou sexuelles. On va prendre du orange plutôt. Donc ça, effectivement, la légende que l'on fait là, on peut la marquer soit sur les lignes du cahier, soit sous la frise, par exemple. Vous pouvez faire un peu comme quand on fait une carte en géo, une légende. Eh bien, ce qui relève du domaine politique, de l'égalité civile, professionnelle, ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc je vous laisse préparer ça, et puis après on va donc terminer avec cette frise chronologique. Si on reprend la frise, donc on a nos 4 catégories. Qui peut nous dire, par exemple, ce que l'on va identifier comme allant dans le sens de l'égalité politique? Allez, qui peut nous redonner une des dates?
En 1944, le droit des votes.
Oui, le droit de vote des femmes, 1944, c'est le début de l'égalité politique. Donc, vous pouvez surligner ou éventuellement à la maison, vous pourrez colorier. Moi, je mets juste un peu de couleur comme ça pour vous l'indiquer. Autre loi qui va dans le sens de l'égalité politique. Tom.
Loi sur l'égal accès des hommes et des femmes au mandat électif.
Très bien. Donc, ce qu'on appelle la parité en politique. Je crois que je l'avais déjà expliqué, hein, la parité en politique, ça veut dire que les partis politiques sont incités, notamment financièrement, ils sont incités à présenter autant de femmes que d'hommes s'ils ne veulent pas avoir des sanctions financières. C'est-à-dire qu'un parti politique, il reçoit de l'argent public pour son fonctionnement, s'il ne présente pas à cette femme, eh bien, il peut perdre une partie de cette enveloppe. Ensuite, eh bien, on peut s'intéresser à ce qui relève de l'égalité civile, c'est-à-dire ici de l'égalité dans la vie de tous les jours, dans la vie privée notamment. Quelles sont les lois qui concernent l'égalité civile entre les hommes et les femmes ?
En 2006, loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Alors attention, parce que regarde, dans les quatre domaines qu'on a identifiés, l'égalité salariale, moi je mettrais plutôt ça dans une... Ah oui, pourquoi ? Pourquoi c'est professionnel l'égalité salariale ?
Le travail, c'est pour les grands.
Ah oui, le salaire, c'est quelque chose qu'on touche quand on travaille. Donc ici, c'est plutôt pour le monde du travail. Donc moi, j'avais proposé la couleur verte pour ça. Donc si vous voulez, on peut partir sur l'égalité au travail. Donc égalité salariale. Depuis 2006, on a une loi qui incite, là encore, les entreprises à payer à poste équivalent, eh bien, les femmes à égalité avec les hommes. Tiens, petite question, si vous suivez l'actualité, est-ce que cette loi, elle est respectée par tout le monde aujourd'hui ? Alors, vous ne suivez pas l'actualité ? Souvent, au début du mois de novembre, depuis quelques années, on a des mouvements féministes donc, qui défendent le droit des femmes, qui sensibilisent la population sur un chiffre. Non ? Ça ne vous dit rien ? Eh ben, en gros, qui calcule le jour à partir duquel les femmes françaises, en gros, commencent à travailler gratuitement.
Préparez votre agenda. Demain, à 16h48, nous, les femmes, eh bien, on travaille gratuitement jusqu'au 31 décembre. C'est la simple illustration de l'écart salarial entre eux et nous.
Soyons positifs, l'écart diminue un peu.
Exactement, il a même perdu 7 points en 27 ans.
Et c'est une très bonne nouvelle. Mais l'inégalité salariale en fonction du sexe persiste toujours. Elle est même très importante. Ça représente environ 35 jours ouvrés de travail pour une femme sur toute une année. En fait, la différence de salaire entre les hommes et les femmes s'élève à quasi 14% en France, dans les secteurs publics et privés confondus. Si on regarde de plus près, le salaire annuel dans le secteur privé pour un homme est de 26 000 euros contre 20 000 euros pour une femme. Soit 6 000 euros de moins.
Et donc aujourd'hui, on estime qu'il y a encore une différence très importante. Donc même si la loi incite à payer les femmes autant que les hommes, il y a encore certains métiers, certains postes où on considère que le travail d'une femme rapporte moins que celui d'un homme. Alors si on reste dans l'égalité au niveau du travail, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici comme loi qui concerne le monde du travail ? Oui.
En 1965, les femmes peuvent gérer leurs biens et exercer une activité professionnelle sans les consentements de leur mari.
Très bien. Effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, elles n'ont plus besoin de demander la permission du mari à partir de 1965 pour exercer un travail. Et une dernière proposition.
La loi 1998, circulaire sur la féminisation des noms de métiers.
Très bien. Que les noms de métiers puissent être aussi bien masculins que féminins. Qu'est-ce que ça change, ça ? Pourquoi s'imposer d'avoir un équivalent féminin à tous les noms de métiers ? Pourquoi ne pas garder des noms de métiers qui étaient uniquement masculins autrefois ? Qu'est-ce que ça crée dans la tête, le fait d'avoir un équivalent féminin ou masculin pour chaque métier ?
Bah, peut-être parce que ils aimeraient pas trop que les femmes elles soient au-dessus des hommes sur... au niveau de l'autorité.
C'est surtout, rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Si un métier, par exemple, n'a qu'un nom féminin ou qu'un nom masculin, qu'est-ce que ça va nous inciter à penser alors ?
Et que, par exemple, s'il n'y a que des femmes, bah, les hommes ne vont pas vouloir essayer d'y aller.
Sage-femme, par exemple.
Bah effectivement, ça reproduit les stéréotypes. Quand on est petit et qu'on réfléchit à un métier qu'on va faire plus tard, effectivement, si on est un petit garçon, on va avoir tendance à ne pas se sentir concerné par un métier qui n'aurait qu'un nom féminin. Effectivement, on a cité l'exemple sage-femme. Souvent, ça, on peut avoir l'image que ce n'est qu'un métier de femme, alors qu'un homme peut aussi bien le faire. Et on pourrait trouver des tas de métiers qui, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, sont surtout prononcés au masculin ou n'ont toujours pas d'équivalent féminin et donc qui vont être des métiers dont on va se dire que ce sont plutôt des métiers de garçons. Donc l'idée en proposant de pouvoir féminiser certains noms de métiers, bah, c'est l'idée de montrer que ce n'est pas réservé que aux hommes ou pour d'autres métiers que aux femmes. Alors, Il nous reste deux types de lois, des lois sur l'égalité civile et des lois sur la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Alors, qu'est-ce que tu veux nous proposer ?
La loi sur l'égalité sexiste en janvier 2023.
Oui,
loi pour sanctionner plus sévèrement l'outrage sexiste et sexuel.
Très bien. Et donc, effectivement, ici, on voit que c'est un problème, en fait, qui est très actuel. L'une des dernières grandes lois en date, hein, c'est la lutte contre ces violences sexistes ou sexuelles, hein, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc là, moi, j'avais proposé du orange, donc on peut surligner ou colorier dans cette couleur. Et donc, les deux dernières que nous n'avons pas encore surlignées dans cette frise, eh bien,
l'égalité civile.
L'égalité civile. Et donc ici, on a deux exemples sur l'égalité civile. Lesquels ?
En 1970, loi sur l'autorité parentale conjointe. Et en 1975, loi sur l'interruption volontaire des grossesses.
Très bien. Donc effectivement, ici, deux autres domaines dans lesquels eh bien, des lois ont renforcé l'égalité dans les années 1970 en particulier. Donc voilà ici quelques exemples de ces domaines dans lesquels l'égalité est progressivement inscrite dans la loi depuis 1944, hein, on l'a vu avec le droit de vote des femmes. Mais donc la frise n'est pas terminée, l'égalité n'est pas encore parfaite entre les hommes et les femmes. Alors, pour terminer là-dessus maintenant, on va élargir un petit peu, on va sortir du cadre français. L'égalité femmes-hommes et les combats dans ce domaine, eh bien, on va aller s'intéresser à un domaine plus large et donc notamment on va s'intéresser d'une manière générale au niveau international pourquoi ce combat pour l'égalité reste très important. Donc ce qu'il faut noter d'abord, hein, c'est que, on l'a dit, c'est pas parce qu'il y a des lois qui donnent l'égalité que les inégalités disparaissent par magie. Hein, ces lois, il faut trouver le moyen de les faire respecter, appliquer. Il faut aussi sortir des stéréotypes qui sont à l'origine de ces inégalités. Donc voilà, ça paraît évident, mais dans la leçon, on peut quand même marquer que les inégalités persistent malgré la loi. Et donc, on va élargir ça, hein, au niveau international. On peut rappeler que les lois aussi, les droits acquis par les femmes sont régulièrement remis en question, c'est-à-dire qu'il y a certains pays, certaines époques, où on peut faire des retours en arrière, c'est-à-dire que des droits qui avaient été accordés peuvent parfois être remis en cause. Est-ce que vous voyez des pays ou des exemples où les femmes ont perdu des droits qu'elles avaient acquis ? Il y en a certains dont on a déjà parlé en EMC, même depuis la sixième. Est-ce que vous voyez des exemples de droits comme ça des femmes ? De droits en faveur d'égalité homme-femme qui régresse. Par exemple, aux États-Unis, tiens, le président Trump et ses soutiens, ils sont opposés à l'un des droits qu'on a identifié, nous, pour la France, tout à l'heure. Quel droit a tendance à être remis en question ? On l'a vu aussi en géographie, d'ailleurs. Vous pouvez regarder sur votre frise, hein, y a un des droits qu'on a placé tout à l'heure, que plus de la moitié des États des États-Unis ont limité depuis quelques années.
C'est la loi sur l'égal accès des hommes et des femmes au mandat électif.
Tu penses que c'est ça ? Alors, non, là je vais répondre clairement. Ça, pour l'instant, heureusement, ça n'a pas été remis en question. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, à l'élection présidentielle, il y avait une femme qui se présentait face à Donald Trump, hein, Kamala Harris. Donc pour l'instant, elles ont toujours ce droit à égalité. Non, par contre, le droit qui est régulièrement remis en question, c'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui beaucoup d'États qui ne permettent plus aux femmes d'interrompre une grossesse si elle n'était pas désirée ou si tout simplement elles souhaitent y mettre fin. Je prends un autre exemple qu'on a vu en sixième. En sixième, on avait parlé par exemple de l'Afghanistan. En Afghanistan, quels droits ont perdu les filles ? L'Afghanistan, hein, je vous rappelle, en Asie du Sud. Quels droits ont perdu les filles en Afghanistan depuis 2 ans ? Alors, personne ne se souvient. Qu'est-ce que n'ont plus le droit de faire les filles de votre âge en Afghanistan ?
Où est-ce qu'elles ne peuvent plus aller, par exemple ?
À l'école.
À l'école. Voilà, oui, ici, un droit fondamental, recevoir une instruction, eh bien, c'est remis en question. Des pays où ces droits avaient été acquis, eh bien, ils peuvent être perdus. Donc c'est pour ça que, voilà, on n'est pas sur forcément un chemin qui va forcément vers le progrès au niveau mondial. Et donc, on termine cette partie très importante de la leçon en notant que aujourd'hui, au niveau mondial, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a fixé plusieurs objectifs qu'on appelle les objectifs du développement durable et qui visent à répondre aux besoins de l'humanité de façon durable. Et on va voir que parmi les besoins de l'humanité, on a défini parmi ses priorités l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on va voir justement pourquoi, si on veut un monde plus durable, c'est-à-dire où on répond aux besoins des personnes pour les siècles à venir au niveau mondial, eh bien pourquoi il faut que les femmes et les hommes soient égaux. Donc, je vous laisse noter ça et après, on va réfléchir un petit peu à cette évolution. La fin de la phrase ici, c'est pour définir un objectif du développement durable. Ce sont donc des objectifs qui visent à répondre aux besoins des humains de façon durable, donc pendant une durée la plus longue possible pour un maximum d'êtres humains. Plusieurs objectifs, on va les revoir notamment en géo. Une grande partie des chapitres à venir dans le cours de géo, justement, vont étudier un peu tous les problèmes actuels de la planète, tout ce qui empêche de répondre aux besoins des humains. On va voir aussi où se trouvent les humains dont les besoins ne sont pas assurés. Et donc, on va essayer à chaque fois de réfléchir ce qui pourrait être fait pour résoudre ces problèmes et donc répondre aux besoins de façon durable. Donc, je vais vous montrer rapidement l'ensemble de ces objectifs. On ne va pas tous les étudier un par un, mais ça va être intéressant quand même de voir un peu la liste de tout ce que l'ONU considère comme prioritaire, comme besoin pour que les humains vivent dans un monde meilleur pour longtemps, hein, et pas seulement pour quelques dizaines d'années, comme parfois on le prédit aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'avenir. Les voici. Donc, vous avez 17 objectifs qui ont été listés. Tiens, par exemple, si on prend le premier, quel rapport on pourrait voir avec les femmes ? Premier objectif, qui est-ce qui peut nous le lire et ensuite nous dire le rapport qu'il y a avec les femmes ?
Pas de pauvreté. Que si les femmes ne travaillent pas, ils gagnent pas forcément beaucoup d'argent.
Très bien, on l'a vu, hein, effectivement, dans les inégalités femmes-hommes, les femmes gagnent moins, ont parfois pas accès à égalité avec les hommes à certains emplois. On l'a vu aussi, par exemple, dans la première étude de cas. Dans quel domaine est-ce que les femmes gagnaient beaucoup moins que les hommes ?
Au foot.
Voilà, dans le sport, c'était un révélateur de ces inégalités. Donc, si on veut faire baisser la pauvreté, eh bien, en fait, agir sur la pauvreté qui touche les femmes, c'est un bon moyen de diminuer considérablement le nombre d'êtres humains pauvres, puisque les femmes sont pour l'instant surreprésentées chez les personnes pauvres. Est-ce que vous voyez un autre objectif par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui qui progresserait beaucoup si on arrivait à une égalité entre les femmes et les hommes ?
S'ils sont avec de l'argent, ils pourraient avoir à manger.
Ah oui, si on a plus d'argent, on a effectivement plus accès aux besoins vitaux comme la nourriture. Est-ce que vous en voyez un troisième exemple alors ?
L'éducation de qualité.
Voilà, et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vient de dire avant ?
Parce que les femmes en Afghanistan, ils n'ont plus le droit à l'école, à l'éducation.
Voilà, par exemple, on a pris l'exemple marquant de l'Afghanistan, mais c'est loin d'être le seul. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde où les femmes vont avoir moins accès à l'éducation, ou en tout cas moins longtemps que les hommes. Donc là encore, si on veut avoir des humains plus éduqués, eh bien dans beaucoup de pays, il faut permettre tout simplement aux filles d'avoir accès à l'école dans les mêmes proportions que les hommes. Donc c'est pour ça que l'objectif numéro 5 ici, c'est l'égalité entre les sexes. En fait, tous ces objectifs du développement durable, ils se complètent un peu les uns les autres. Si on agit juste sur un objectif tout seul, on n'y arrivera pas. L'ONU nous dit qu'il faut faire des progrès dans ces 17 objectifs pour avoir un monde meilleur, plus durable dans l'avenir. Donc, pour résumer ça, je vais vous afficher le schéma du développement durable. Là, vous pouvez prendre de la place, vous pouvez même prendre une page entière. Ce schéma, on le réutilisera en géo. Donc, on va voir le rapport entre l'égalité femmes-hommes et un développement durable. Oui, on va faire des cercles, trois cercles autour de ça pour définir les objectifs du développement durable de façon un peu plus simple que dans le document que je vous ai projeté juste avant. Donc là, vous l'écrivez, vous faites exactement la même chose. Alors, il faut que le cercle englobe un petit peu comme développement durable. Il faut qu'il passe par-dessus. Vous voyez que c'est ce que j'ai fait parce qu'on va voir que le développement durable, c'est une addition. C'est l'addition de trois grands objectifs. Donc d'abord, premier objectif du développement durable, réduire la pauvreté, assurer les besoins en richesse de tous les êtres humains. Le deuxième grand objectif, je vous l'affiche, c'est réduire les inégalités. Si on veut un monde durable, sans conflit notamment, il faut que les humains soient à égalité. Et le troisième objectif, pour qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions durablement, qu'est-ce qu'il faut préserver une fois qu'on a réduit la pauvreté et réduit les inégalités? À quoi il faut encore penser quand on parle de développement durable?
À la nature.
Très bien. Et là, on va voir aussi que même quand on parle d'inégalité femmes-hommes, on va voir que préserver l'environnement, s'adapter au changement global, quand on dit changement global, c'est pas uniquement climatique, ça va être toutes les formes d'adaptation à, par exemple, la pollution, à la disparition de certaines espèces, au changement du climat. Donc, on préfère parler de changement global. Et donc, on peut rappeler ici les exemples concernant l'égalité ou l'inégalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut peut-être lire pour le micro, pour l'émission de radio, c'est quand on parle de réduire la pauvreté, quel est le chiffre qui montre que les femmes sont au cœur de cet objectif?
Les femmes gagnent 23% de moins que les hommes.
Voilà, ça c'est au niveau mondial, c'est l'ONU qui a fait ce calcul à partir des chiffres de tous les États membres de l'ONU, donc presque tous les États de la planète, en moyenne dans le monde, 23% de moins pour les femmes par rapport aux hommes. En ce qui concerne les inégalités, quelqu'un d'autre va pouvoir nous lire l'exemple là que je vous demande de retenir. On pourrait faire preuve même d'égalité femmes-hommes si on avait peut-être une fille qui nous lit l'objectif. Voilà.
Les femmes sont victimes d'inégalités dans tous les domaines.
Voilà, donc vu que les femmes sont finalement la population la plus victime d'inégalités, si on veut réduire les inégalités, c'est un bon moyen que de s'attaquer déjà à celles dont sont victimes les femmes. Et alors là, je vais vous poser la question avant d'afficher le dernier exemple. Pourquoi le cas des inégalités femmes-hommes est aussi au cœur des préoccupations quand on parle d'environnement ou d'adaptation au changement qui touche la planète à notre époque? Pourquoi, là encore, on a ça comme objectif lorsque l'on parle des inégalités femmes-hommes? Alors, pas d'idée. Donc, je vais vous la proposer. Quelqu'un va la lire.
Quelqu'un qui n'a pas parlé, par
Quelqu'un qui n'a pas parlé, oui.
Les personnes les plus pauvres sont les premières victimes des problèmes environnementaux.
Or, on a dit que qui étaient les personnes les plus touchées par la pauvreté entre les hommes et les femmes?
Les femmes.
Voilà. Donc encore une fois, si on réduit la pauvreté des femmes, potentiellement, on permet à des centaines de millions de personnes dans le monde d'être un peu mieux préparées aux changements environnementaux, climatiques par exemple. Donc voilà ici pourquoi ça fait partie des principaux objectifs du développement durable. Et donc on arriverait à un développement durable si on arrivait à réduire la pauvreté en même temps qu'on réduit les inégalités et qu'on préserve mieux l'environnement et surtout qu'on protège mieux les personnes contre les problèmes environnementaux. Donc le développement durable, pour l'instant, on en est assez loin. C'est un objectif qui est poursuivi aujourd'hui et dont on aimerait se rapprocher avant la fin du siècle, à voir si c'est tenable. Voilà, donc je vous laisse terminer de compléter ce schéma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est encore le moment de les poser.
Donc, du coup, ça veut dire quoi, ONU ?
Ah oui, c'est vrai que ces objectifs, j'ai dit qu'ils ont été proposés par l'ONU. Eh bien, l'ONU, on peut marquer, hein, d'ailleurs, on peut marquer la source de ce schéma que je viens de faire au tableau. Donc, la source de ça, donc d'où ça vient, c'est l'ONU, Organisation des Nations Unies. Et l'Organisation des Nations Unies, elle réunit près de 200 pays de la planète qui discutent des problèmes du monde, qui essayent de trouver des accords, parfois de mettre en œuvre des objectifs communs, comme ces objectifs-là. On s'arrête là.
Voilà, c'était un petit cours de rattrapage pour ceux qui ne connaissaient pas les cours d'éducation morale et civique. Aujourd'hui, sur InfoRC, le sujet était la lutte pour les droits des femmes. Merci aux élèves de 5e du Collège Roca et à leur professeur, Monsieur Thomas.